Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, j'accueille Samuel. Samuel a 23 ans et il est père au foyer. Vous suivez peut-être son quotidien sur Instagram, sur son compte Samuel et Gaspard, où on peut découvrir ses aventures avec son fils, digne de celle de Frodon et Sam partant à la conquête de la montagne du destin. Dans cet épisode, nous allons aborder différents sujets. La violence éducative, l'éducation genrée, l'émotion, les sentiments. Je vous souhaite autant de plaisir à écouter que nous avons eu à le préparer. Bonne écoute à toutes et tous. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être rendu disponible pour cette interview.
Ben merci à toi, merci de me recevoir.
Je t'ai présenté en introduction, je voulais vraiment avoir l'opportunité de discuter avec toi parce que t'es un jeune père. T'es un jeune père et je suis assez bluffé, comme je l'ai déjà dit, par tous les propos que tu peux tenir sur l'éducation, sur les violences éducatives ordinaires. J'aimerais qu'on puisse un petit peu creuser tous ces sujets. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que t'as ressenti en apprenant que t'allais être papa ?
Ben, je m'en souviens très bien en plus parce que c'était un matin où j'allais pas à la fac, parce qu'à l'époque j'étais à la fac de médecine, et c'était un matin où j'allais pas à la fac, et puis Léa vient me voir, je dormais, tu vois, grasse mat et tout, le truc, le mec tranquille quoi. Puis je dors, puis Léa elle vient me réveiller en me disant « Sam, je suis enceinte », comme ça, tu vois, le truc genre, elle me réveille, et là, waouh, tu vois, déjà le temps d'imprimer le truc, ça avait été un sacré truc, mais après... Très étrangement, en fait, j'ai pas du tout eu peur, tu vois. J'ai été très choqué, si tu veux, parce que c'était très soudain et que, voilà, on avait parlé de, voilà, de commencer à essayer d'y réfléchir, commencer à essayer, pourquoi pas, tu vois, d'avoir un enfant. Mais là, c'était vachement soudain quand même. Et tu vois, moi, j'étais genre, waouh, putain, c'est là, quoi, tu vois. Donc, ça avait été plus un choc qu'une peur. Mais tu vois, direct le jour même, on est allé faire le tour de nos parents et tout pour leur annoncer parce que c'était super important pour nous et tout. Donc on était assez heureux finalement, tu vois, parce que c'est quelque chose qu'on avait un peu discuté en amont, qu'on avait un peu appréhendé, tu vois, c'était pas une surprise totale.
C'était quand même dans le projet, quoi.
Ouais, c'est en fait, si tu veux, nous on était parti du principe que à partir du moment où on était tous les deux ok sur voilà. Le fait qu'on voulait un enfant, qu'on le voulait rapidement et qu'on avait une certaine structure en termes de, tu vois, de finances et tout, qui faisait qu'on était capable de le faire, qu'on était indépendant de nos parents, tout ça. On s'était dit, bah voilà, on va laisser faire la nature son travail, tu vois, et voilà, tranquille. Mais c'est vrai que du coup, ça arrivait vite, quoi, tu vois. Et donc, du coup, bah, c'était une petite surprise, mais en même temps, une bonne surprise, parce que au moins, comme ça... On est direct rentré dans notre projet, quoi, finalement.
Et ouais, c'est chouette, parce que c'est toujours vraiment un moment super intéressant quand on se dit, tiens, pourquoi pas, si on faisait un enfant, puis que ça ouais. arrive vite. Ouais. Ça arrive vite, tout le monde a pas cette chance, et quand ça arrive, c'est super clair. Cool. Et pour le coup, la question, moi, qui me vient comme ça, parce que t'as 23 ans,
ouais.
Alors là, j'ai posé ma question de vieux con, si tu veux. C'est pour le coup, moi, quand je t'entends parler, quand je t'entends avoir toutes ces connaissances sur la violence éducative ordinaire que j'avais pas du tout à ton âge, je me dis, est-ce que c'est quelque chose que t'avais déjà avant de devenir père ? Est-ce que c'est une démarche que t'as fait toi-même d'apprendre tout ça ? Comment ça s'est passé ?
Mon rapport aux violences éducatives ordinaires, il est assez. Comment dire, je sais pas original, mais. Paradoxal, parce que bah, j'ai vécu une enfance quand même où j'ai vécu des violences éducatives ordinaires, même si je m'estime quand même chanceux par rapport à l'éducation que j'ai eue et par rapport aux parents que j'ai eus, parce que je pense que voilà, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui ont géré comme ils ont géré les quatre garçons qu'ils ont eu à la maison quand même. Et voilà, c'était pas baigné dans une bienveillance de tout instant et un monde parfait voilà, où tout était nickel, mais de toute façon, ça n'existe pas. Mais par contre, il y avait toujours cette démarche d'essayer de prendre en compte nos émotions et tout. Et voilà, donc j'ai baigné dans plein de choses violentes, parce que j'estime aujourd'hui qu'elles sont violentes, mais j'ai aussi baigné dans beaucoup de bienveillance et beaucoup de tolérance, ce qui fait que j'ai une sensibilité vis-à-vis des enfants et du respect des enfants qui est extrême. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très très sensible vis-à-vis des enfants. Alors autant avec les adultes, j'ai beaucoup plus de facilité à clairement avoir rien, à me bloquer toute compassion, toute empathie, même si je le fais pas du tout, hein, mais je remarque que voilà, ça se fait des fois chez moi, ce blocage. Mais par contre, avec les enfants, je suis incapable de ça. C'est-à-dire que n'importe quel enfant, n'importe où, n'importe quand, si je le sens en détresse ou si je vois qu'il y a quelque chose que moi j'estime violent, que je sais que ça peut être violent pour lui, je sais pas comment t'expliquer, ça me prend aux tripes, quoi. Tu vois? Et ça a toujours été le cas depuis toujours. Et ça, c'est vraiment un réflexe inné en moi, mais je te dis ça, genre je regarde un film, il y a un gamin qui se prend une gifle dans le film, tu vois. Et moi je pleure, mais je pleure pas parce que dans le film, le gamin il se prend une gifle. Je me dis, putain, il y a un acteur enfant qui a dû se prendre une gifle pour ce film. Et je suis en mode, tu vois, c'est ce genre de truc. Je me dis, quand il y a un nourrisson qui pleure dans un film, je me dis, ouais, ils ont dû forcément faire pleurer un nourrisson à un moment quand même pour faire cette scène, tu vois. Et c'est des questionnements comme ça, d'hypersensibilité par rapport à l'enfant, qui ont fait que, très rapidement avec Léa, quand on s'est dit, ouais, ce serait chouette d'avoir un enfant et j'ai envie qu'on ait un enfant ensemble et tout, où je me suis dit, ouais, mais par contre, si on a un enfant, il va falloir qu'on change un peu de façon de faire par rapport à la façon dont on a été éduqué. Parce que c'était pas forcément, voilà, comme je t'ai dit, tu vois. C'était pas parfait, et nous on n'essayait pas d'être parfait, mais c'était en tout cas encore pétri de pas mal de violences éducatives. Et du coup, c'est là qu'on a commencé à se renseigner, surtout Léa d'abord. Et c'est vrai que moi je suis arrivé très tard sur la lecture et tout, vraiment pendant la grossesse de Léa, tu vois. Alors que Léa, même avant sa grossesse, même avant qu'on parle d'avoir un enfant, enfin, on savait qu'on en voulait ensemble, mais on ne savait pas quand, comment, tout ça. Là déjà à ce moment-là, après notre mariage, tu vois, et tout. Elle lisait beaucoup, elle lisait Filioza, Gegen, enfin, tu vois, ce genre de livres très intéressants. Et moi, j'étais pas trop dans la lecture, tu vois. Elle me racontait ce qu'elle lisait et tout, ça m'intéressait, je trouvais ça pertinent, mais j'avais pas pu. Hein. Et quand j'ai su qu'elle était enceinte, là, vraiment, j'ai commencé à essayer de me renseigner au maximum et à vraiment, en fait, si tu veux, mettre des notions scientifiques et des théories scientifiques sur mes instincts à moi que je ressentais, tu vois.
Super, c'est fort. Enfin, moi, si tu veux, non, mais ça, pour le coup, si tu veux, je me projette un peu dans ce que moi j'ai traversé aussi. Et c'est vrai que je me retrouve bien dans ce que tu dis, puisque ma compagne aussi a commencé à lire, elle m'en parlait. Et j'écoutais, je trouvais ça bien, mais j'avais un peu de distance vis-à-vis de ça. Moi, personnellement, c'est le documentaire, même qu'on a imbattable, de Marion
Ah
Cotillard
ouais. Ouais.
qui m'a.
Ah bah ouais.
qui, paradoxalement, m'a mis une bonne claque, si tu veux. Et après, ouais, après, une fois que tu as mis le doigt dedans. Je trouve que bah, tu continues de creuser, quoi.
C'est
Et pour
clair.
le coup, tout ce qu'il y a autour, je parle du développement de l'autonomie, de la motricité libre, tout ça, c'est quelque chose. Comment tu y es venu à tout ça?
C'est simple, comme tu dis, de fil en aiguille, tu vois, tu t'intéresses. Alors c'est vrai que moi, à la base, je me suis surtout intéressé aux violences éducatives ordinaires, à proprement parler, tu vois, parce que j'ai cette phobie et cette haine de l'injustice la plus totale, tu vois. Je suis quelqu'un de, comme je t'ai dit, je suis très extrémiste sur ça, c'est-à-dire que l'injustice qu'est la violence éducative ordinaire pour moi, parce que c'est une pure injustice. Elle est très compliquée à gérer pour moi. Et d'ailleurs, tu vois, des fois, c'est compliqué. Hein. Franchement, des fois, c'est compliqué. Ça me bouffe un peu, tu vois, parce que je repense à plein de trucs et tout. Puis je me dis, et si ça, et si machin. Mais en tout cas, ça m'a amené ce sujet-là aux autres sujets, parce que je me suis dit, bah, quitte à aller à fond, autant aller à fond vraiment en harmonie avec tout le reste, tu vois. Et donc, on s'est beaucoup renseigné sur l'allaitement avec Léa, parce que c'est quelque chose. Moi, j'ai eu la chance d'être allaité plusieurs années quand même, et mes frères aussi, mais Léa pas du tout. Et c'est vrai que pour elle, elle avait ce besoin-là de se renseigner, d'être accompagnée là-dessus. Elle a eu la chance d'avoir accès à une conseillère en lactation, pas mal de choses sur ça. Et voilà, tu vois, de fil en aiguille, l'allaitement, mais donc après l'allaitement, comment on va faire? Alors la diversification menée par l'enfant. Et là, moi, tu vois, le grand cuisinier, en tout cas le passionné de cuisine que je suis, la diversification menée par l'enfant, j'ai trouvé ça génial, mais direct, tu vois.
Ah ouais, c'est sûr.
J'ai trouvé ça génial, et tu vois, on l'a pratiqué avec Gaspard. Et alors là, mais c'est pour moi, franchement, tu vois, je suis pas en train de dire que mon éducation elle est géniale et tout, mais la diversification menée par l'enfant avec Gaspard, Ça a été une des plus belles réussites et une des plus belles surprises pour moi de notre éducation, c'est que ça a super bien marché et qu'on a été super heureux et qu'on voit on voit que Gaspard, vis-à-vis de la nourriture, il a un rapport super sain et tout. Ça, je suis trop content. Après, la motricité libre, pour moi, c'était une évidence. Et ça m'a pris à peu près 2 minutes pour me faire un avis dessus, tu vois. Franchement, j'ai pas eu besoin de lire 100 livres pour comprendre, tu vois. Enfin, je veux dire, à un moment, je me suis dit, bah ouais, c'est vrai que c'est un peu logique. Et voilà, petit à petit, chaque sujet, les uns après les autres, comme ça. Le portage, tu vois, c'est pareil. Le portage, au début, j'étais là, elle m'a montré Léa, elle m'a dit, ah, oh, ce serait bien que tu prennes en écharpe et tout. J'étais là, mais alors là, moi, mes parents n'ont jamais pris en écharpe, je sais pas ce que c'est, je me sens pas de le faire, tu vois. Elle m'a montré une vidéo, et puis, tu vois, genre, ouais, d'accord, il faut bac plus 5 pour faire un nœud, tu vois, si mère. Donc, tu vois, je suis comme ça, et puis après, je me dis, allez, vas-y, bah viens, on prend une écharpe, tu vois, on l'achète, et on prend un poupon, on essaye, et tout, puis j'essaye, machin. Et en fait, quand Gaspard est arrivé, j'ai pris en écharpe, et il a passé un an et demi à faire ses siestes de 2 heures tous les jours en écharpe avec moi. Tu vois, je veux dire, c'est un vrai kiff.
Ah, c'est
Et
génial ça.
ça a été comme ça, petit à petit, chaque sujet un par un, et puis j'en découvre encore plein. Et tu vois, le sujet, par exemple, de l'éducation non genrée, le sujet de l'égalité homme-femme, même au sein de l'éducation et tout, c'est des sujets que j'avoue, j'avais pas en tête au départ pendant la grossesse de Léa, parce que c'était pas des sujets majeurs dans ma réflexion, et qui ça le devient aujourd'hui, parce que je ressens ce besoin-là, tu vois, d'avancer sur ces chemins-là et de faire attention à ce que je fais avec mon enfant sur ces sujets-là aussi.
C'est vrai que moi j'ai tendance à penser que à partir du moment où tu as compris le rapport de domination et de soumission qu'il y a dans les violences éducatives ordinaires,
Bien sûr.
tu t'interroges sur tous les rapports de domination que tu vois autour
Exactement.
de toi, et là forcément tu tombes sur le sexisme, le racisme, sur tout ça,
Bien sûr.
et ça te remet aussi en question par rapport à ton statut à toi, hein, puisque on se parle, hein, nous sommes deux hommes blancs,
Ouais, c'est
cisgenres,
ça.
hétérosexuels, voilà, donc c'est bien d'oser en parler. Il y a juste un petit point que je voudrais soulever, c'est que tu as été allaité plusieurs années, donc un allaitement non écourté.
Un allaitement, disons un allaitement, je pense que je crois que j'ai été allaité 2 ans.
2 ans. Alors,
Ouais.
je voudrais juste, pour ceux qui nous écoutent et qui sont sur un sujet un petit peu d'allaitement et qui doutent, Samuel est est un adulte normal.
Oui, je
D'accord?
n'ai pas
Il
de
a été
problème
allaité 2 ans.
psychologique.
Voilà. Il va très bien. Voilà, je voulais juste en parler.
Et tous mes frères également. Nous sommes tous des adultes bien portants. Bon, après, on a un petit problème dans la famille, c'est qu'on est tous à 2 mètres et 100 kilos à peu près, mais ça, c'est
Ah
pas
ben comme quoi, tu
l'allaitement. C'est pas l'allaitement, mais enfin, c'est peut-être un peu l'allaitement aussi. Mais on a été très heureux dans notre enfance, mine de rien. Et voilà, je suis persuadé que l'allaitement a fait beaucoup pour, par exemple, mon immunité qui est plutôt solide.
Ça, mais j'en suis convaincu. Tu disais aussi tout à l'heure que quand tu vois une situation de violence avec les enfants, il y a quelque chose qui te prend aux tripes.
Ouais.
Et c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué dans mon podcast, et pour le coup, je vais te poser la question, c'est quand tu vois une violence comme ça, éducative ordinaire dans la rue, au supermarché, ce que tu veux, est-ce que tu réagis, et si tu réagis, comment tu réagis?
Alors, moi maintenant, alors ça a été difficile pour moi parce que je suis plutôt quelqu'un qui aime pas gêner, qui aime pas se faire remarquer, tout ça, tu vois, je suis plutôt quelqu'un de discret et tout. Mais dès que ça touche aux enfants ou quoi, j'ai toujours eu ce truc inné de me dire, là, il y a un truc qui va pas. Et avec maintenant l'information que j'ai, tout ça, je me permets de réagir systématiquement quand je suis face à une situation de violence. Face à une situation de violence, violence. Pas face à une situation de violence éducative ordinaire. En fait, quand je suis face à une situation de violence éducative ordinaire, c'est-à-dire quelque chose qui n'est ni un coup, ni une insulte, mais qui peut être par exemple une humiliation, une mise au coin, ou j'entends dans le parc une maman qui dit bah, tu seras privé de goûter, tu vois, ce genre de choses, j'interviens, mais pas du tout de la même façon. J'interviens vraiment déjà en me tournant vers l'enfant. Et puis j'interviens, mais vraiment à la cool, tu vois, avec compassion, parce que je sais très bien que c'est pas facile pour les parents, et moi aussi c'est pas facile pour moi. Et j'essaye d'entamer un dialogue vraiment sain et complètement tolérant, tu vois, en disant, mais je comprends que ce soit compliqué et tout, mais là, tu vois, j'essaye de trouver des solutions vraiment peaceful. Par contre, quand c'est une violence physique ou une violence verbale directe, là j'interviens en mode pitbull, et c'est d'ailleurs ce qu'on m'a reproché une fois, parce que je suis déjà intervenu en plein marché de Noël. Il y avait un papa qui allait mettre une fessée à son enfant. Et je suis intervenu juste à temps parce que j'étais à côté. Et enfin, c'est limite si on n'en est pas venu aux mains, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas productif du tout. Et qu'en plus de ça, je me mets à la place du gamin qui déjà vient de se prendre une fessée par son père et qui voit un autre gars qu'il connaît pas arriver, qui commence à limite gueuler sur son père en lui disant que c'est un grand taré. C'est d'une violence inouïe, tu vois. Et en fait, je m'en suis
Ouais, c'est
beaucoup
sûr.
voulu parce que c'est vrai que je me suis dit, mais attends, là, ce que t'as fait, c'est contre-productif au possible. Donc maintenant, j'ai beaucoup plus de sang-froid. Ça, c'était une des premières fois où je suis intervenu. Maintenant, j'ai beaucoup plus de sang-froid. Et une fois au parc, comme ça aussi, Léa est intervenue parce qu'il y a un père qui avait carrément mis une mandale à son gosse parce qu'il voulait pas descendre du toboggan parce qu'il avait peur de faire le toboggan, en fait, tout simplement. Et moi, j'y suis allé calmement pour le coup. J'avais dit deux, trois trucs et puis je lui avais dit que c'était quand même super violent, quoi, tu vois, et que c'était interdit par la loi et que voilà, tu vois, j'essaye de. Mais bon, c'est compliqué parce que dans ces moments-là, tu as un shoot d'adrénaline qui est super fort et t'as qu'une envie, c'est de. Enfin, moi, en tout cas, j'ai qu'une envie, c'est de mettre des coups sur le mec. Et c'est d'ailleurs une preuve que j'ai quand même des réflexes super violents en moi qui sont, pourquoi pas, intégrés depuis ma plus tendre enfance par. Par exemple, des violences éducatives ordinaires ou une façon de voir le monde un peu violente, peut-être, qui m'a été inculquée aussi.
Et c'est bien que tu en parles parce que justement, ça rejoint la question que je voulais te poser ensuite. Parce que tu parlais de choses qui étaient en toi au niveau de la violence éducative ordinaire. Et moi, je veux te dire en toute transparence, j'ai eu une période très très complexe quand je suis devenu papa avec ma petite parce que elle avait des câlins alors que bah, déjà, quand j'avais assimilé le fait que les caprices n'existaient pas. Sauf que tu as une petite voix en toi, tu vois, qui te dit que c'est un caprice, alors que tu sais que c'est pas vrai, mais elle est là, cette
Ouais,
petite
bien
voix.
sûr.
Et quand tu réponds par un câlin là où toi tu prenais une mandale, il y a une petite voix aussi qui dit non, mais non, moi j'ai pas eu ça.
Ouais.
Donc ça s'appelle l'enfant
Ouais,
intérieur,
bien sûr.
hein. Mais tu vois, c'est vraiment une lutte de ressenti, je trouve. Au début, maintenant ça s'est vachement estompé avec la pratique. Mais toi, pour le coup, est-ce que ça t'a laissé des traces comme ça, un petit peu des ressentis comme ça dans ton vécu?
Ouais, bien sûr, moi il y a des trucs qui encore aujourd'hui me semblent absolument pas naturels avec Gaspard, tu vois. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que tu te dis, je sais que c'est ça qui est le mieux, qui est le plus positif, qui est le plus bienveillant, enfin ce que tu veux, tu vois. Mais en même temps, tu te dis, moi, j'ai jamais connu ça, donc est-ce que je vais bien le faire déjà, tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi ça.
Exactement.
Moi, il y a souvent des moments où, tu vois, par exemple, quand Gaspard, il traverse une tempête émotionnelle, que c'est vraiment, tu vois, en plus, Gaspard, il en fait rarement, mais par contre, quand ça lui arrive, le pauvre, c'est vraiment un carnage pour lui, tu vois, enfin, je veux dire, il repousse tout le monde, enfin, voilà, une tempête émotionnelle, quoi. Et le truc, c'est que moi, dans ces moments-là, j'essaye de me mettre dans une posture, tu vois, à sa hauteur, d'essayer de verbaliser ce qu'il ressent et tout. Mais dans ma tête, je me dis, mais ça se trouve, même ça, tu le fais pas bien parce que tu l'as jamais vu faire par tes parents, tu vois. Et c'est ça qui est compliqué. Parce que déjà, d'un, t'as le premier réflexe, c'est de dire, non, mais arrête ton caprice. De deux, t'as le réflexe numéro deux, je dirais, celui que tu t'es auto-appris, qui est de dire, bah, mets-toi à sa hauteur, essaie de verbaliser et tout. Et puis derrière, t'as le retour du premier, tu vois, de l'enfant qui revient, qui dit, ouais, mais
Ah
bon, quand même, je sais pas si tu le fais bien, tu vois. C'est compliqué. C'est clair que c'est une lutte permanente entre ton enfant intérieur blessé, ce que tu estimes être bon et ce que tu as vécu toi, quoi.
Et oui, il ne faut pas qu'on oublie une chose importante, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire d'éduquer des enfants bien construits que de réparer des adultes détruits, hein.
Ouais,
Donc,
bien sûr.
réparer nos blessures, c'est sûrement ce qu'il y a de plus difficile
Ben ouais.
dans nos parcours de parents. Et ça, pour le coup, j'ai envie de te dire, comment ça s'est passé à l'arrivée de Gaspard? Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi? Vraiment, vraiment, tu vois, voilà, quand tu l'as eu dans les bras la première fois, quand
Ben,
tu l'as vu dans les bras la première fois.
moi, ça avait été un sacré truc parce que l'accouchement, enfin notre accouchement, moi je dis notre accouchement parce que j'estime qu'on a vécu ça tous ensemble, il a été très long et assez compliqué parce que au final, ça s'est passé d'une façon très éloignée de ce qu'on voulait puisque on avait un projet d'accouchement à domicile, donc quelque chose de très en comité restreint, non médicalisé au possible et tout. Voilà, puis au final, on s'est retrouvé avec un déclenchement, avec une péri, enfin tu vois, vraiment tout ce qu'on ne voulait pas. Mais malgré ça, on a su vivre ça, enfin, traverser cette épreuve-là. Et c'est vrai que bah, quand Gaspard il arrivait, déjà Léa, elle était complètement KO parce que ça faisait 4 jours qu'on était à la maternité, tu vois, que c'était un enfer. Après sa première tétée, je l'ai pris. Et là, je me suis dit, la première chose que je me suis dit, c'est, bon, bah, maintenant, il faut que tu assures. Tu vois, je l'ai pris dans mes bras. Et tu vois, c'est vrai que, tu vois, on le dit tout le temps, et c'est un peu cliché, mais c'est vrai, quand tu le prends dans les bras, moi, en tout cas, j'ai senti une vulnérabilité, mais infinie. C'est-à-dire que, enfin, un bébé, ça ne peut pas survivre posé par terre là, tu vois, comme certains animaux qui naissent et qui partent faire leur vie. Un bébé, il peut rien faire seul. Et du coup, tu te dis, là, en fait, tu es obligé d'assurer, toi, tu vois. Et c'est ça qui m'a traversé à ce moment-là. Je me suis dit, là maintenant, il a besoin de toi, tu vois. Et ce besoin de ses parents, c'est ce qui me traverse tout le temps en me disant, voilà, il a besoin qu'on soit là pour lui, il a besoin qu'on soit positif avec lui et tout. Et ça a un peu guidé toute ma parentalité, tu vois, en tout cas ma petite parentalité pour l'instant. Mais voilà, c'est vrai que c'était un mélange de soulagement, d'amour et de, voilà, de tout d'un coup, une responsabilité qui arrive en disant, là maintenant, il est là, faut que tu assures, quoi.
Ouais, non, mais c'est vrai que ça vient d'un coup, hein. Là, je te
Ouais.
rejoins complètement, il y a tout ça qui arrive. Moi, j'ai le souvenir vraiment d'un amour, hein, incroyable que je m'attendais pas du tout
Ouais.
à ressentir. Et c'est vrai qu'après, il y a tout ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ce sentiment, il revient des fois. Tu vois, des fois, quand je regarde ma fille, je sais pas si tu vis la même chose. Mais je la regarde et ça revient, quoi.
Ouais, des espèces.
Ça revient, mais c'est...
Moi, j'ai des espèces de chaleur des fois quand je le prends dans mes bras, tu vois. Parce qu'en plus, Gaspard, c'est un garçon qui est vraiment très énergique et qui est peu câlin et peu. En fait, il est assez. Comment dire? J'ai pas envie de le dire de façon péjorative, mais d'autres personnes pourraient dire turbulent, tu vois. Mais c'est pas turbulent, c'est juste qu'il est assez brusque dans ses mouvements et que du coup, il n'est pas du tout câlin. En tout cas, avec moi, avec sa mère beaucoup plus, mais avec moi, il n'est pas du tout câlin. Il est beaucoup plus dans le jeu, dans la mobilité, tu vois. Et du coup, c'est vrai que les rares moments où on se fait des gros câlins, ou tu vois, par exemple, quand il est un peu malade, on se met en peau à peau, je lui fais un gros câlin, ça lui fait beaucoup de bien. Mais là, tu sens une espèce de vague d'amour et de chaleur, tu vois. Mais vraiment, moi, ça m'est arrivé une fois en écharpe de me dire, là, je pense qu'il y a vraiment de la chaleur qui sort de moi, qui s'envoie vers lui, tu vois, d'amour. Et ça, je pense que c'est super important pour nous, pères, de réaliser ça, qu'on a le droit de. Enfin, tu vois, qu'on peut ressentir ce genre de vague d'amour et ce genre de bouffée de chaleur, un peu d'amour et de sentiment envers ses enfants, tu vois. Et de les embrasser, en fait, en disant, ouais, c'est cool que je vive ça et je l'accepte, en fait, tu vois.
Mais complètement, c'est cool, on a le droit de le ressentir, on a le droit de l'accueillir, de l'accepter et de l'exprimer.
Et de l'exprimer.
Et donc, Gaspard est arrivé et vous avez décidé avec Léa que tu allais rester à la maison pour t'en occuper.
Ouais.
Parce que tu es père au foyer, donc cette histoire est connue, puisque c'est un petit peu ce que tu racontes aussi sur ton compte
C'est
Instagram,
ça.
où on voit vos aventures quotidiennes. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est, ok, c'est une très belle décision, j'avoue que je t'envie un peu. mais pour le coup, comment est-ce que ça, toi, tu vis cette situation en termes de relations de famille et à ta place de père, on va dire, et à ta relation à ce que c'est un homme?
Ouais. Ben, en fait, la décision, elle a été prise. C'est rigolo parce que je le dis souvent et souvent les gens, ça les étonne. Mais en fait, à la base, moi, tu sais, j'étais en fac de médecine. J'étais en troisième année. Et bon, je me faisais clairement chier. Ça ne me plaisait pas du tout. Et j'étais pas du tout épanoui dans mes études de base. Et en fait, quand Gaspard est arrivé, ça a un peu catalysé tout un truc en moi qui m'a fait dire. Si t'es pas heureux dans ce que tu fais, il faut que tu arrêtes de le faire parce que tu vois, tu as autre chose à faire de ta vie maintenant, tu as un enfant et tout, tu peux pas te permettre de passer des heures en cours à dormir parce que ça te plaît pas, tu vois. Et du coup, j'ai arrêté la fac et je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce que c'est ça la question, tu vois, quand tu arrêtes un truc qui te plaît pas, tu te dis, bon, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Tu as 21 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Et en fait, la réponse, elle a été de me dire, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta vie, parce que ce processus de décision, il a duré 6 mois, tu vois. Gaspard, il avait 6 mois quand j'ai vraiment arrêté la fac. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ce qui te plaît le plus, c'est de t'occuper de ton enfant et de t'occuper de ta maison, de ta famille, de ta femme et voilà, de gérer ça. Et donc, j'ai dit, allez, écoute, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est jouable? Parce que tu vois, ça demande pas mal d'ajustements financiers, professionnels, personnels, tu vois. Et Léa m'a dit, bah, écoute, si ça te rend heureux, moi, ça me rendrait super heureuse et on pourrait essayer ça, tu vois. Donc, on est parti sur ça. Et c'est vrai que les 90% des gens ont été choqués, pas parce que j'arrêtais la fac pour devenir parent au foyer, mais parce que j'étais un homme qui allait devenir parent au foyer, tu vois. Et ça, c'est vrai que ça a été assez drôle pour moi parce que je suis assez provocateur parfois, tu vois, dans les combats que je soutiens. Et pour moi, le fait qu'un homme puisse être père au foyer, c'est un vrai sujet et c'est quelque chose que j'adore mettre en avant parce que bah, c'est encore très très peu représenté. Et donc moi, quand je suis arrivé là-dedans, en fait, je l'ai tellement affirmé, mais avec une petite part de fierté en moi, tu vois. De me dire, là, moi, je fais un truc que peu ont la chance de faire déjà, faut pas l'oublier, et que ceux qui ont la chance de le faire, ils se font casser du sucre sur le dos toute la journée parce que, en gros, on dit que c'est pas des vrais hommes, entre guillemets, tu vois, parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils n'amènent pas d'argent à la maison, tu vois. Et en fait, moi, je suis content de pouvoir militer sur le fait que le fait de rapporter de l'argent à la maison, déjà, ça peut être une femme qui le fait. Parce que c'est ça, en vrai, le vrai sujet de dire les hommes ne peuvent pas être pères au foyer, c'est aussi de dire les femmes ne peuvent pas ramener de l'argent à la maison pour la famille, tu vois. Et c'est ça qui me guide, c'est de lutter contre ces deux stéréotypes à la con, si tu veux. C'est de dire, voilà, à un moment, on a le droit aussi de changer les rôles et d'être heureux comme on veut, tu vois.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et voilà, c'est un peu ça qui me guide. Et c'est un peu ça qui a fait que j'ai créé le compte Samuel et Gaspard, tu vois, mon compte Instagram. C'est un peu pour dire, voilà, c'est possible de faire autrement en fait. Respecter les choix de chacun et surtout tolérer vous-même vos choix, tu vois, parce qu'il y a des gens qui auraient aimé faire ce choix, je pense, et qui l'ont pas fait par peur et par crainte et par pression sociale, tu vois. Et je pense que c'est important aujourd'hui de, quand on a des parcours atypiques, de le revendiquer en disant, en fait, pas en disant c'est mieux, juste en disant c'est possible.
Mais c'est sûr. Et c'est clair qu'aujourd'hui, il y a quand même des gros freins sociaux, de pression sociale. Il y a des freins. Après, il y a quand même, pour certaines situations, des vrais freins
Bien sûr.
financiers qui peuvent, plus souvent qu'on le croit, être contournés quand même. Ça demande des ajustements de vie importants, mais c'est possible. Et c'est très intéressant que tu dises pas de travail. Alors, je suis d'accord avec toi totalement dans le. Quand tu dis, oui, la vision, c'est la femme qui ramène l'argent à la maison, c'est pas quelque chose d'ancré dans la culture. Mais alors là. Carrément. D'ailleurs, je viens de finir le livre de Sylviane Giampino, Les pères travaillent-ils trop? Où justement, elle parle de cette structure sociale. Et c'est un livre génial. Pour le coup, il y a un point quand même qui me titille et sur lequel que je voudrais préciser, mais je pense qu'on sera d'accord. C'est le fait de dire pas de travail.
Ah
Alors moi,
oui.
maintenant, je dis toujours, tu n'as pas de travail
Voilà, tout
rémunéré
à fait,
socialement.
c'est ça.
Tu vois? Tu fais un travail gratuit que font énormément de
Bien
femmes à
sûr.
travers le monde. Et qui devrait être
Ah
rémunéré.
oui.
Ça, après, c'est mon petit engagement social à moi,
C'est
mais.
ce qui est clair en tout cas, c'est que ma définition du travail, elle comprend les parents au foyer. Parce que évidemment,
Et ouais.
d'ailleurs, je pense qu'un jour, je sais pas comment je vais le faire, mais je vais mettre au défi des gens. De tenir une semaine de parents au foyer. Et encore, moi, j'ai qu'un enfant, tu vois, c'est vraiment easy. Je pense à des mamans que je connais qui ont 4, 5 enfants et qui sont là, mère au foyer toute la journée, 24 heures sur 24, parce qu'en plus, ce qui est trop bien avec les parents au foyer, c'est qu'ils travaillent de minuit à 23h59. Donc, tu vois, en vrai, c'est quand même un vrai travail. Et bien sûr, il n'est pas rémunéré parce que on estime que c'est, je sais pas. En fait, je sais pas pourquoi c'est pas rémunéré. Ça devrait l'être, je pense. En tout cas, ça devrait être accompagné beaucoup mieux que ça. Déjà, ça devrait être reconnu légalement parce que le parent au foyer, c'est pas du tout une. Tu vois, je vais te raconter une histoire rigolote par rapport à ça. J'ai marié mon frère l'été dernier et j'étais son témoin à la mairie. Et juste avant le passage à la mairie, tu vois, il me dit, tu verras, j'ai une petite surprise pour toi. Et je venais de lancer mon compte Instagram, tu vois, j'avais pas, voilà, ça venait de commencer et tout, puis c'était un petit truc. Et le maire, c'était quand même, tu vois, c'était dans l'église de, non, pas dans l'église, dans la mairie de Caen et tout. C'est un grand truc, il y avait plein de monde, on était tous sur notre antenne et tout. Puis le maire, il commence à lire les trucs légaux et tout. Puis après, il passe au témoin, tu sais. Il est obligé de lire Samuel, machin, né le, machin, machin, profession. Et là, profession, influenceur sur les réseaux sociaux. Il a mis. Parce qu'en fait, mon frère. Attends, mais parce que l'histoire est folle en vrai. Mon frère, pour remplir les papiers de la mairie, avait dit mon frère est père au foyer. Donc vous mettez ça en profession, père au foyer. Et à la mairie, ils lui ont dit non, non, désolé, c'est pas une profession, on peut pas le mettre, on met sans emploi. Et en fait, mon père, il a dit ben non, parce que mon frère, il travaille toute la journée avec son fils, j'ai pas envie que vous mettiez sans emploi parce que il se casse la tête toute la journée. Et donc vous mettez un truc. Et ils lui ont dit ben on peut mettre ce que vous voulez, mais il faut nous dire. Et du coup, pour la petite vanne, il a mis influenceur sur les réseaux sociaux. Mais tu vois quand même. Ils ont dit,
Non, mais
tu vois, on peut même pas se dire père au foyer, enfin parent au foyer. Ça n'existe pas.
moi je trouve ça quand même. Alors, j'ai rien contre les influenceurs, hein, soyez-en sûr, mais je trouve ça quand même ouf dans une société qu'on puisse mettre sur un papier officiel je suis influenceur sur les réseaux
Ouais.
sociaux, mais qu'on ne puisse pas reconnaître je suis parent au
Mais bien
foyer.
sûr.
C'est
Ben
incroyable, c'est
c'est comme
incroyable.
quoi il y a des choses qui sont plus ancrées que d'autres parce que tu vois le côté influenceur et tout ça s'est vite répandu, ça s'est vite il y a des statuts, des trucs légaux qui se sont mis en place très vite. Mais il y a des trucs, ça fait 2 millénaires que c'est pratiqué, mais apparemment on peut toujours pas le mettre dans une case, tu vois. Donc il y a encore du boulot, ouais.
Non mais c'est clair qu'il y a du boulot et c'est clair aussi que c'est une vraie question société parce qu'aujourd'hui, bon pour le coup vu qu'on a ouvert la parenthèse on va continuer de creuser mais aujourd'hui la problématique c'est qu'on a une société qui est basée sur ce que tu rapportes à un capital
Bien sûr.
et pas du tout ce que tu rapportes à la société parce que élever ses enfants, les élever avec passion, avec respect, avec tout ce qu'on peut leur apprendre, c'est t'apporte à la
Bien
société.
sûr.
Et j'aime à penser que tu apportes un petit peu plus à la société qu'en allant faire gagner un peu d'argent à des gens placés, mais c'est un autre débat.
Mais je suis d'accord avec toi.
et pour le coup, alors parlons quand même aussi de toi, strictement toi. Comment est-ce que tu arrives à concilier ce mode de vie de père au foyer avec tes aspirations de développement personnel, tu vois? Et ma question, c'est est-ce que tu as. Est-ce que tu arrives à mener des projets pour toi? Comment est-ce que tu vois l'avenir? Est-ce que dans 5 ans, tu te vois toujours père au foyer? Est-ce que, voilà, est-ce que, sans dévoiler trop sur d'éventuels projets, mais
Ben, en fait,
est-ce que ça se concilie,
ça
quoi?
m'a pris un petit bout de temps avant de m'autoriser ça. C'est vrai que, tu vois, au début, quand j'ai décidé d'être père au foyer et tout, il y a eu un côté assez sacrificiel, tu vois. Où pendant plusieurs mois, vraiment, je faisais rien d'autre que ça. Je pensais qu'à ça. Et en fait, au bout d'un moment, quand même, j'étais un peu fatigué psychologiquement, tu vois. Et j'avais besoin de voir des gens de mon âge, j'avais besoin de sortir, j'avais besoin de me développer personnellement, de lire des trucs autres que des livres de parentalité, tu vois, parce qu'en vrai, au bout d'un moment, t'as la tête qui tourne, tu vois, c'est normal en même temps, tu peux pas rester sur un truc tout le temps comme ça. Et du coup, c'est vrai que ça m'a pris un certain temps à réaliser, et avec l'aide de Léa, parce que c'est là aussi où c'est important d'avoir des partenaires qui te connaissent et qui sont capables de te dire les choses. J'ai compris qu'il fallait aussi que je prenne pas forcément du temps parce que ça, c'est un truc, c'est souvent une je trouve que c'est une mauvaise conception. On dit souvent il faut que tu prennes du temps pour toi, mais moi je trouve que prendre du temps pour prendre du temps, dire allez, tous les jours je fais 1 heure où c'est que pour moi, je vais me faire un bain pendant 1 heure parce que j'ai rien trouvé d'autre à faire, ça va être super, mais tu vois, je veux dire, pour moi, c'est plus. Trouve des choses qui t'enrichissent. Et tu vois, par exemple, moi, l'année dernière, j'ai pu enfin me remettre au rugby. Je m'étais blessé assez gravement, du coup j'ai dû arrêter pendant quasiment 2 ans. J'ai pu enfin me remettre au rugby, tu vois. C'est des choses qui m'ont fait du bien. Et j'ai eu des gros projets qui se sont créés là cette année. Je ne peux pas en parler pour l'instant. Mais j'ai eu un très gros projet qui s'est concrétisé et ça m'a pris beaucoup de temps. Et ça, j'ai été super heureux de le faire parce que pour le coup, ça restait dans une sphère quand même autour de la parentalité. Mais c'était mon projet à moi et c'était du travail autre, tu vois. Et ça m'a fait bien plaisir de faire ça. Et voilà, je pense que le tout, c'est d'accepter le fait qu'on en ait besoin déjà, j'allais dire de ce temps pour soi, tu vois, mais d'accepter qu'on ait besoin de faire autre chose en tout cas, et qu'on ait besoin et qu'on ait le droit de faire autre chose que d'être parent, tout comme toi, quand tu finis ta journée de taf, tu vois, enfin, à part les workaholics, mais la plupart des gens, ils pointent à 18h, ils rentrent chez eux, ils ont qu'une envie, c'est qu'on ne leur parle de tout sauf du taf, tu vois. Et ben, faut accepter le fait que les parents au foyer, c'est aussi ça, tu vois. Il y a aussi un moment le soir où t'as pas envie de te lire encore 3 heures de livres sur la parentalité et que tu as envie de te mater un film sympa ou que tu as envie de te faire une formation sur, je sais pas, le web design ou te faire une formation en ligne d'histoire, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Et faut s'écouter, je pense que c'est le plus important. Et écouter les gens autour de toi aussi sans tomber dans un truc où tu écoutes tout et n'importe quoi, mais les gens qui tiennent à toi, les écouter parce qu'ils ont souvent des choses à te dire aussi, quoi.
Et je te rejoins complètement parce que c'est vrai que surtout quand on se remet en question, quand on se déconstruit sur la parentalité, bon moi je suis aussi beaucoup sur les sujets féministes, à un moment les lectures c'est super enrichissant, mais il y a juste un moment où
Ouais, bien sûr.
faut faire un break, tu vois,
C'est
parce
ça.
que... Et le burn-out parental et le burn-out militant, hein, ça existe, hein. Surtout justement, il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, hein, je t'ai vu faire une vidéo sur ce côté un peu parent parfait.
Ouais, bien sûr.
Je pense que c'est un sujet important, que tu as bien fait de l'aborder, hein, je me permets de donner mon avis. Parce qu'en effet, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup ce côté regarder, limite, tu as l'impression que c'est le bonheur
Ouais,
permanent, qu'être
ouais.
parent, c'est le but ultime. Non, non. Enfin, c'est chouette, c'est une belle aventure, mais ça fait pas toute une vie non plus,
Non.
tu vois.
Et puis c'est pas que positif. Hein. Je veux dire, c'est pas que des moments super heureux et tout. C'est aussi des moments durs, tu vois. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est compliqué parce que t'essayes de produire du contenu qui plaît aux gens, tu vois, et qui esthétiquement est intéressant et tout. Puis au final, c'est vrai que beaucoup occultent le fait que la parentalité ce soit dur. Et ça, je l'entends rarement, tu vois. J'entends rarement les gens dire. Être parent, c'est dur. Mais en fait, ça l'est, honnêtement. Tu vois, moi, je le pense, en tout cas. Et c'est pas parce que c'est dur que ça rend malheureux. Et c'est pas parce que c'est dur que c'est impossible. C'est juste, c'est dur et ça nous repousse dans nos retranchements. Et ça demande de se réinventer et de s'adapter de façon permanente. Pour moi, la meilleure définition de la parentalité, c'est l'adaptation permanente à un milieu qui ne fait qu'évoluer. Et donc, c'est vrai que c'est super important de le dire. Parce que le burn-out parental, c'est super méconnu et que c'est une situation que vivent beaucoup de gens et particulièrement des femmes. Il y a encore là une injustice, enfin une inégalité et une injustice parce que c'est souvent les femmes qui sont atteintes de burn-out parental parce que c'est souvent elles qui ont apporté la charge mentale et la charge familiale, tu vois. Et ça aussi, on n'en parle pas assez du burn-out parental. Et comme tu dis, le burn-out militant, j'imagine que c'est aussi un sujet à creuser, tu vois.
Bah, c'est sûr que dès que tu, en fait, dès que tu te déconstruis, tu changes tes repères, donc c'est pas facile. Y a beaucoup de, d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui bloquent sur tout ce qui est violence éducative ordinaire parce que bah, c'est aussi plus facile de rester dans sa vision socialement plus
Ouais, c'est plus
acceptée.
confortable.
Sauf que bon, après, ce sont des choix qu'on est prêt à faire ou pas. Chacun avance aussi à son rythme. Faut pas dire qu'une personne est bien ou pas bien
Non,
parce
bien
qu'elle est,
sûr.
elle avance pas au même rythme que nous ou que d'autres. Ça, c'est important aussi. Et c'est bien que tu parles d'éducation, d'égalité femmes-hommes. Ça m'amène à ma question suivante. Pour le coup, tu as un petit garçon.
Ouais.
Alors, comment est-ce qu'avec Léa, vous arrivez à avancer sur l'éducation de Gaspard pour pas en faire un mâle dominant en puissance, voire un prédateur?
Ben, tu vois, je pense que tu m'aurais posé cette question il y a 2 ans, je t'aurais dit, mais t'as ouf, quoi, évidemment que je vais pas en faire un prédateur, je suis pas débile, je sais très bien qu'il faut expliquer aux garçons de laisser les filles tranquilles. Tu vois, je t'aurais sorti un truc comme ça, je pense, il y a 2 ans et demi, 3 ans, tu vois. Et c'est vrai que aujourd'hui, je me retrouve des fois à me dire, comment je vais faire pour, et comment je fais déjà, tu vois, parce que c'est vrai qu'on se dit comment je vais faire quand il sera grand et tout, mais pour moi, ça commence dès le plus jeune âge. Comment je vais faire pour que, en fait, mon fils soit respectueux des femmes, tu vois, ou des hommes, ou enfin de qui il veut, mais qui soit respectueux, tu vois. Et ça passe par le fait d'essayer de déjà le respecter lui, respecter son corps, respecter ses besoins, mais aussi respecter ses avis. C'est-à-dire que Gaspard, systématiquement, même depuis qu'il est nourrisson, et ça c'est un truc, ça peut paraître très bizarre d'un point de vue extérieur, mais on le fait systématiquement. Par exemple, quand on lui change la couche, je lui demande toujours si c'est d'accord. Et s'il n'est pas d'accord, on le fait plus tard. S'il n'est pas d'accord, il le fait tout seul ou on trouve d'autres solutions. Mais je ne lui touche pas les parties génitales sans son accord. Alors que je suis son père, tu vois. Sa mère, c'est pareil. Et c'est le genre de choses qui font qu'on essaye de lui faire comprendre qu'il y a des choses qui nécessitent un consentement, tu vois. Et cette notion de consentement dans l'éducation respectueuse de l'enfant, tu vois, dans l'accompagnement respectueux de l'enfant, est primordiale pour moi. Parce que le consentement, c'est la base de tout. Et si ton enfant, il consent pas à ce que tu dis, de toute façon, tu vas jamais y arriver, tu vois, en forçant un truc. Donc, en fait, respecter le consentement de son enfant, c'est déjà lui faire le premier exemple qu'il faut respecter le consentement plus tard des femmes ou des hommes, enfin, des personnes qui vont l'entourer, qui vont l'accompagner dans sa vie, tu vois. Et c'est la première chose pour moi. La deuxième chose, c'est, je pense, pour l'instant, on n'en est pas du tout là avec Gaspard, mais d'insister sur le fait que le corps des autres, ça se respecte. Mais tu vois, par exemple, ça, par exemple, avec Gaspard, je le fais parce que parfois, Gaspard, il attrape les autres enfants quand il veut faire un truc avec sa copine, par exemple, Iris, que j'ai vu cet après-midi. Il la prend par la main, il l'amène, tu vois, mais genre, il l'attire. Genre, en mode, viens faire le jeu avec moi. Et ça, tu vois, c'est des trucs, j'interviens parce que j'estime que c'est violent, tu vois. Et il faut que. Alors, j'interviens, bien évidemment, avec le plus de bienveillance possible, mais j'explique que voilà, là. Il y a un consentement qui n'a pas été respecté, tu vois. Et de remarquer ça dès le plus jeune âge, pour moi, c'est la base d'ensuite essayer de construire quelqu'un d'équilibré dans ses rapports avec les autres.
Ah mais je te rejoins complètement, ça c'est la base de la base. Il y a un très bon livre de Céline Bourde de Verbessière qui s'appelle Je peux te faire un bisou,
Oui.
que je conseille énormément à tous les parents qui peuvent nous écouter ou les parents à devenir. C'est vrai que c'est un vrai gros sujet, ça, le consentement, c'est très important pour pas en faire un prédateur. Et puis il faut oser dire le mot, un futur violeur en puissance. On en parlait un peu avant d'enregistrer, hein. C'est vrai qu'on a tendance à s'imaginer qu'on a une fille, mon Dieu, mais. Quand elle va être grande, tu m'en parlais tout
Ouais,
à
bien
l'heure,
sûr.
quand elle va être grande, mon Dieu, ma fille, mais j'espère qu'il ne va rien lui arriver, mais jamais on se pose la question, mon Dieu, mon fils, est-ce qu'un jour il va violer une fille?
Ouais. Et ouais, et pourtant c'est un vrai questionnement. Par exemple, moi je me suis déjà demandé, je me suis déjà dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais si un jour à 16 ans, je reçois un coup de fil, tu vois, ouais, ton fils, il a fait ci, il a fait ça, tu vois, tu te rends compte? Il a agressé sexuellement quelqu'un ou quoi. Et en fait, c'est une vraie peur, par contre, que j'ai, tu vois. J'ai pas beaucoup de peur dans mon éducation, tu vois, mais celle-là, c'est une vraie peur parce que je sais très bien qu'on vit dans une société qui est pas du tout favorable à ce que les hommes respectent les femmes et à ce que les hommes. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est peut-être dur à dire comme ça, mais moi, mon point de vue personnel, c'est ça. C'est qu'on est dans une société qui est très violente. Qui est très violente envers les femmes, qui font des femmes beaucoup encore des objets et qui font que c'est très simple pour un homme de glisser vers une figure de prédateur et de violer. Les statistiques sont là pour dire que les violences à la fois conjugales, mais aussi les agressions sexuelles et les viols, et avec toutes les affaires qu'on a entendues récemment, ça montre bien qu'on est dans une société qui est encore baignée là-dedans, tu vois. Et de ce fait, du fait que je sais qu'on est dans une société comme ça, c'est une vraie crainte pour moi de me dire est-ce que je vais réussir et est-ce que je vais réussir à accompagner mon enfant vers un truc, enfin vers une démarche complètement normale, que j'estime normale, de respect du consentement et de respect du corps des autres, tu vois. C'est ça qui est compliqué.
Je pense qu'en tout cas, commencer par respecter son corps,
ouais,
à lui, c'est chouette.
Bien sûr.
Moi, je sais, tu vois, par exemple, avec ma fille aussi, il y a aussi notre corps à nous. Moi, il y a des fois où je l'autorise à me tirer les cheveux. Bon, même si j'en ai pas beaucoup, mais je l'autorise à me tirer les cheveux. Et puis, il y a des fois où je dis non. Ouais. Voilà. Et puis, je lui dis, écoute, c'est mon corps, je dis non. Alors, au début, les toutes premières fois où je faisais ça, elle comprenait pas. Et puis, petit à petit, ok, très bien, papa, il a dit non. Quand moi, je dis non, il dit c'est ok. Quand lui dit non, c'est ok.
Ouais, ouais, bien sûr.
Après, c'est vrai que. Sur ce sujet-là, il y a quand même deux livres, je pense, qui sont importants aussi. C'est « Tu seras un homme féministe, mon fils » d'Aurélia Blanc, qui est un livre magnifique. Et aussi « Fille, garçon, même éducation » d'Elisa Régoulet et Pita Npika, qui sont géniaux. Je crois que c'est chez Marabout. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette éducation de genre, tu vois, qui est importante. Par exemple, il y a des vraies études qui ont été réalisées. Par exemple, on s'est aperçu qu'on a tendance à beaucoup plus verbaliser avec les filles qu'on peut le faire avec les garçons. Ouais. Parce qu'on estime, dès la naissance, hein, que le garçon, c'est plus physique, tu vois, que c'est plus... qu'on n'est plus sur quelque chose qui va être physique, il n'y a pas trop besoin de lui parler. Et je ne sais pas si tu connais cette étude qui a été réalisée en 1976, où sur un panel de 900 personnes de différents âges, en fait, tu as la photo d'un bébé qui est asexué dans son apparence, si tu veux, qui est en train de pleurer.
Ouais.
Et quand on dit aux gens que c'est un garçon, il pleure de colère. Quand on dit aux gens que c'est une fille, ils pleurent de tristesse.
Ah ouais, c'est fou.
Et c'est là où je trouve que c'est fou, hein, tu vois. Et c'est là où je trouve que c'est très dur en tant que parent, c'est que on a aussi cette culture du viol en nous, on a aussi ce sexisme en nous qui existe, faut pas le nier. Et pour le coup, tu vois, inconsciemment, on peut aussi le transmettre. Et c'est là que c'est chaud.
Ouais, c'est là que c'est chaud. C'est exactement ça. C'est que tu te dis en fait, moi-même, je peux transmettre un truc sans m'en rendre compte. Et tu vois, tu sais pas en fait, tu peux pas savoir à quel point t'as réussi à te déconstruire toi par rapport à ce que t'as vécu dans ton enfance, par rapport à la société dans laquelle t'évolues, tu vois. C'est compliqué parce que tu peux pas, je pense qu'on peut pas vraiment savoir à quel point on a réussi, ou en tout cas sur quel chemin, enfin à quel niveau du chemin on est, tu vois. Et moi j'ai toujours cette crainte, et tu vois, le problème c'est qu'en plus, le problème c'est pas un problème, mais. Tu vois, Gaspard étant un enfant qui est vraiment beaucoup plus dans la mobilité que par exemple dans la parole actuellement, tu vois, ben en fait, c'est compliqué parce que du coup, les gens sont là, oui, c'est un garçon, il monte partout et tout, tu vois. Et en fait, j'ai envie de dire, mais c'est pas parce que c'est un garçon qui monte tout le temps partout, tu vois. C'est un garçon et il monte tout le temps partout, tu vois. c'est deux choses qui ne sont pas. Il n'y a pas de causalité entre les deux, tu vois. Et le truc c'est que bon voilà, c'est encore un grand travail pour moi et pour tout le monde en fait, hein, d'arriver à sortir des stéréotypes d'une éducation genrée, tu vois. C'est pour ça que nous par exemple on essaie au maximum de pas avoir de jouets genrés à la maison, tu vois. C'est pour ça que Gaspard il a tous les jouets qu'il veut en fait, et que tu vois je l'amène dans les magasins. C'est pour ça que je bondis quand je vois encore dans certaines grandes enseignes que je boycotte d'ailleurs du coup, des rayons filles affichés en rose et des rayons garçons affichés en bleu, avec dans les rayons filles des dinettes et dans les rayons garçons des tracteurs. Ça me rend fou en 2020 qu'il y a encore ça. Et je peux te dire que la fois où je suis allé dans cette enseigne, que je suis rentré, que j'ai vu ça, j'ai fait aller-retour, bonsoir. Hein. C'est pour moi ça, c'est des choses qui devraient plus exister aujourd'hui.
Il faut aussi une volonté politique derrière.
Bien
hein. Il y a des pays, notamment des pays nordiques, qui sont plutôt en avance sur le sujet, et où c'est juste enfin tu peux pas en fait, tu peux pas rentrer dans un magasin et trouver des choses genrées comme ça. Donc c'est une piste très intéressante. Dis-moi Samuel, on vient de se parler, on a quand même beaucoup discuté déjà, on s'est beaucoup parlé de sentiments, de choses que t'as ressenties, de la virilité, de la place de l'homme. Visiblement t'as exprimé beaucoup de choses, mais dis-moi, t'as toujours tes testicules ?
Bah écoute, attends, je vais vérifier. Ouais, je crois que c'est bon, ça va. Toujours bien attaché.
Bon, ça va. Ça veut dire qu'on peut être un homme, être sensible, en parler, et pas perdre ses couilles.
Ouais,
c'est super.
Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, les mecs. N'hésitez pas à faire savoir autour de vous. Non, mais plus sérieusement, oui, on a le droit. Et non, on n'est pas obligé. Mais oui, on a le droit. Et c'est important de le savoir, et c'est important de le dire.
C'est une belle phrase. Je crois que j'aurais pas mieux.
Je suis un mec comme ça, moi, je lâche des punchlines.
Dernière question, celle que je pose à la fin de toutes mes interviews. Quel conseil tu aurais envie de donner alors, conseil, quand je dis conseil, c'est pas donner des leçons, hein, mais c'est quel conseil tu aurais envie de donner aux parents et aux parents à devenir qui nous écoutent.
Quel conseil je pourrais donner Écoutez votre instinct. Parce que je fais partie de ceux qui pensent que on est quand même à la base des mammifères et qu'on est quand même à la base des êtres humains, mais des animaux aussi. Et on a des instincts parentaux, comme tous les autres animaux, comme tous les autres mammifères, qui sont spécifiques de notre espèce, certes, mais qui sont aussi spécifiques de notre genre, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais des mammifères, quoi. Et qui fait on a des instincts parentaux. De parentage proximal. On a des instincts parentaux d'accompagnement, on a des instincts parentaux de respect de l'enfant et on a plein de choses en nous qui sont pour moi, personnellement, c'est un avis personnel, mais qui sont naturelles. Et elles sont enfouies, ces instincts, ils sont enfouis sous une couche monumentale de préjugés et de normes d'un autre temps qu'il faut enlever. Et ensuite, une fois qu'on a réussi à faire ça, ce que je ne réussirai jamais à faire, mais ce n'est pas le but de toute façon, mais je veux dire, quand on est sur ce chemin-là, on peut rajouter des couches de livres et de notions théoriques et scientifiques sur la pédagogie positive et tout. Et c'est ce trio-là qui, pour moi, fait qu'on rentre dans un chemin, et je dis bien qu'on rentre dans le chemin de la parentalité respectueuse. C'est reconnaître qu'on baigne dans un monde quand même très violent et avec plein de normes qui devraient évoluer, se rapprocher de son instinct parental naturel et s'informer de façon positive et sans se culpabiliser sur ce qu'on a fait avant et ce qu'on a pu faire sur
Est-ce qu'on
scientifiquement
va
et ce qu'on
faire?
va faire, parce que tu vas le faire de toute façon, et scientifiquement s'informer sur des notions de parentalité qui peuvent vous intéresser, que vous avez envie de mettre en place. C'est cette triade-là pour moi qui fait que on peut commencer à réfléchir.
Super. Bah écoute, merci beaucoup
Ben,
Samuel.
merci à toi.
Je te dis au revoir et
À
à bientôt.
plus.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.